Bonjour à tous. Je remercie Gérard Wachsmann de venir pour la troisième rencontre du séminaire des échanges organisé par la CF Aquitania et en partenariat avec la librairie Mola, que je remercie, ainsi que Catherine Lacaspol qui va discuter avec Gérard Wachsmann autour du thème qui scande ces trois rencontres, de quoi la série est-elle la forme, à partir de l'ouvrage que vous avez écrit, Les séries, le monde, la crise, les femmes, qui est paru chez Verdier en 2018. Juste un petit mot de présentation. Vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, directeur au département de Paris 8 du Centre d'études d'histoire et de théorie du regard, écrivain. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. Je citerai L'objet du siècle. Par exemple, Fenêtre ou L'œil absolu, ainsi que Les experts, dont le titre était Les experts, la police des morts, sur la série Les experts. Et je voulais peut-être commencer par une actualité brûlante pour les fans, comme on dit, de série, puisque vous le savez certainement, dans la nuit de dimanche à lundi, ça sera le dernier épisode de Game of Thrones, après 8 ans de bons et loyaux services de tous ces héros et ces héroïnes. Et dans votre ouvrage, vous dites que cette série met en avant, elle aussi, les femmes, qui d'abord, et tous les fans de cette série se sont plaints d'ailleurs à ce propos, qui d'abord sont très malmenées dans cette série-là, entre soumission, viol, etc. Les femmes finissent par s'imposer et vous dites même que c'est la guerre des femmes dans cette série-là. Donc ce n'est plus la guerre des sexes, mais c'est vraiment la guerre des femmes. En tous les cas, les femmes se montrent. Elles ne sont plus cachées. Donc est-ce que vous pourriez peut-être nous dire en quoi les séries rendent les femmes, pas simplement visibles, mais... qu'elle se montre, et elle se montre comment? Juste pour démarrer.
Oh, mais ça, non, vous aurez le droit à tout. c'est pas seulement le démarrage, c'est le corps de l'affaire.
Oui.
Merci à vous. Merci à Catherine. Beaucoup, Catherine Lacaspol. Merci pour votre présence fidèle, formidable. En effet, il y avait l'idée, Catherine Lacaspol m'avait un peu sollicité de ce point de vue-là, et c'était bienvenu, comme j'avais imaginé d'ailleurs pouvoir le faire, mais je suis mal orienté pendant un moment, parler plutôt aussi du quatrième terme du titre que vous rappeliez du livre sur les femmes. J'avais envisagé ça. C'est une question qui m'occupait, je vais en redire un mot, et qui continue de me préoccuper, puisque ce que j'aimerais bien arriver à justifier pour moi-même de façon encore plus... affirmer ce qui m'a semblé être en question, à savoir l'apparition dans les séries, mais avec les séries, de quelque chose qui se surgissait dans le monde, d'une nouvelle, alors catégorie, c'est pas le bon mot, mais d'une nouvelle forme en tous les cas, un nouveau type de personnage féminin. J'ai rapidement nommé les déglingueuses. Je suis très content de ce terme, mais en même temps, je ne sais pas très bien ce qu'il signifie. J'ai du mal à entièrement justifier la chose, même si j'entrevois pourquoi, et j'aimerais bien poursuivre et dans l'échange qu'on pourrait avoir ensemble, de donner, serait content de pouvoir me justifier à moi-même de cette, à la fois de cet intérêt, de cette précipitation à trouver, à définir cette forme nouvelle de personnage, pour l'instant donc de fiction, mais dont je soupçonne qu'elle rencontre. Que ce type de personnage rencontre d'autres choses simplement que d'un nouveau genre fictionnel. Alors, pour commencer, je voudrais d'abord donner une justification un peu générale aux références que je fais aux séries. Je prendrai cette justification dans ce qui a été le thème des journées Lacan il y a un mois à Toulouse auquel j'ai participé avec notre collègue Michel Elbaz qui venait de Bordeaux aussi et qui avait donc dont le thème était l'inconscient politique. Et pour mon compte, j'y ai évoqué la conférence de Lacan à Baltimore. Célèbre conférence où il définit étrangement l'inconscient en disant, dans sa conférence même, que l'inconscient, c'est Baltimore au petit matin. On est en 1966 et j'étais frappé, je le signalais tout à l'heure, au fond du fait que juste l'année qui suit, en 67, Lacan en donne une autre définition qui est que l'inconscient, c'est la politique. Ce sont des définitions poético-énigmatiques, l'une comme l'autre. Et pour ma part, donc, dans ces journées à Toulouse, j'ai parlé de la ville, et j'ai parlé même précisément de la ville de Baltimore, au travers d'une série qui se passe donc à Baltimore, une série célèbre dont je ne saurais trop vanter qu'on la regarde, qui s'appelle The Wire, parce que, et donc j'ai voulu parler de la ville de Baltimore, une ville dans la ville qu'on voit dans la série, la ville de Baltimore qu'on voit dans la série, n'est manifestement pas du tout celle que Lacan voyait de sa fenêtre, parce qu'il devait être dans un hôtel à légèrement chic, j'imagine, j'espère en tous les cas qu'on lui avait réservé une chambre dans un hôtel assez convenable, alors que ce qui se passe dans la série de Wire se passe dans des quartiers pauvres et très très déglingués, là, pour le coup. Et donc, j'ai parlé de la ville précisément parce que il m'a semblé qu'on pouvait assez facilement dire que la ville était structurée comme un langage. Dans à partir du propos même de Lacan. Et dans sa conférence de 66, Lacan souligne que lorsqu'il dit « comme un langage », selon sa formule, il ne s'agit pas d'un langage particulier, qu'en disant que l'inconscient est structuré comme un langage, selon la formule consacrée, l'inconscient parle ce qu'il appelle le langage concret, ce que parlent les gens. Et c'est de là que Christiane Alberti avait conclu que l'inconscient, c'est donc pas ce qu'il y a de plus intime, c'est pas cette chose enclose au tréfonds de la sphère privée et des crânes, que c'est le langage que nous partageons. L'inconscient, nous y habitons ensemble. C'est comme une ville, en effet, et on est déjà là en voie de comprendre que c'est politique. C'est en ce sens que je suggère justement de regarder les séries comme un lieu commun, comme un langage concret que nous partageons. L'ami Jean-Pierre Klotz avait conclu la dernière fois que l'analyse, on pouvait tout à fait poser que l'analyse était structurée comme une série, mais on pourrait tirer que la série est structurée comme un langage, ce langage justement que nous partageons. En tous les cas, on n'y est pas tout seul, c'est-à-dire que la série serait aussi un lieu commun. Et c'est pour cela qu'il importe de regarder, à mon sens, les séries, parce qu'elles sont en quelque sorte la projection de ce langage concret, commun, la projection de l'inconscient, d'où je dirais que la série, c'est la politique. Le canapé d'où on regarde, nous, les séries, enfin, si on a des canapés, mais ce qui est assez fréquent, en tous les cas, c'est mon cas, ce canapé est comme le célèbre canapé orange de la série que je citais, de The Wire, dont je faisais un paradigme. Ce canapé, qui est un meuble sorti de l'intimité du salon d'une maison pour être installé en plein milieu d'une cité. Mais après tout, le divan analytique, on pourrait dire, lui, que c'est le monde installé dans le lieu clos du cabinet. Et le soir, comme je, pour mon compte, je le fais, comme peut-être certains d'entre vous le font, regarder les séries, c'est encore d'une certaine façon de regarder le monde. Ce qui veut dire que la journée de l'analyste, ça doit consister à passer du divan au canapé, autant dire du monde au monde. Et que, en gros, c'est ça qui m'a sollicité. Et donc, on ne peut s'étonner de voir si les séries sont, ce que j'en prétends d'une certaine manière, quels sont le symptôme de ce monde, de la crise qui traverse ce monde. On ne peut pas s'étonner de voir les séries agiter des questions qui nous agitent, aussi bien dans l'intimité, d'ailleurs, que dans la cité, et en particulier la question des femmes. Nos journées d'automne de l'école de la cause freudienne cette année vont s'interroger à ce sujet, et pour mon compte, c'est aussi en regardant des séries que des interrogations ont pris forme à cet égard. Et je voudrais, là, pour le petit moment qu'on passe ensemble, vous les soumettre. Dans un premier temps, je voudrais proposer une quasi, c'est pas une chronologie, mais enfin du moins d'établir une liste un peu chronologique des thèmes des séries qui me semblent sinon éclairantes, du moins utiles, voire fertiles pour se faire une idée de ce fait actuel qui est celui qu'on dit être la féminisation du monde. Et donc, dans le petit livre que j'ai fait sur les séries, j'ai surtout été capté et captivé par la place nouvelle des femmes dans les séries et par le rôle inédit qu'elles pouvaient y jouer. Quelque chose a clairement changé dans ce qui naguère faisait des femmes des objets, et spécialement, justement, des objets cachés. Entre la maison, l'église, la cuisine, le gynécée, la terrasse, le harem, les balcons, les fenêtres voilées, les mouches à rabier, les jalousies, les femmes étaient assignées à des lieux où elles ne pouvaient être vues, mais d'où, en même temps, elles pouvaient voir. Les femmes étaient des regards invisibles. Le voile islamique pourrait être un nouveau lieu de l'objet caché. Au regard des femmes cachées, il est clair que les choses ont un peu changé. On a beau dire que la femme n'existe pas, ce n'est pas a priori ce qu'on viendrait conclure quand on regarde les séries aujourd'hui. Mais je voudrais, avant d'en parler, pointer en quelques mots le changement, la nature, un certain changement qui s'est opéré en peu d'années dans les séries, parce qu'il implique une logique qui, au départ, va annoncer l'arrivée, justement, des femmes sur le devant de la scène. Naguère encore, ce sont donc essentiellement des hommes qui étaient les héros. C'est évidemment, la chose est entendue. Mais dans les séries, spécialement dans les séries, plus qu'ailleurs, il ne s'agissait pas de n'importe quels hommes. J'ai dit au début de nos rencontres que si le cinéma avait construit le mythe américain avec ses héros, les séries étaient la forme d'une certaine mise en crise de ces récits fondateurs. Et c'est spécialement vrai concernant le héros mâle. Il y a 3 ou 4 ans, un journaliste américain a publié un livre dont le titre est, en anglais, « Difficult Men », les hommes difficiles. Mais le Si le terme de difficile, je crois, il renvoie essentiellement à la préoccupation qui était celle de cet auteur, qui était en fait essentiellement de montrer que les personnages des grandes séries étaient les portraits de leurs auteurs et que derrière chaque grande série se cachait un grand homme névrosé. Bien sûr, les psychanalystes ne peuvent guère dénier le fait que l'œuvre soit le témoignage de quelque chose comme l'inconscient de leurs auteurs, mais il me semble qu'au-delà d'impliquer l'auteur dans l'œuvre, je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché, au fond, dans ce livre de ce journaliste américain, qui est qu'il a isolé un nouveau type d'homme comme personnage dans les séries, qu'il serait plus juste de nommer que Difficult Man, qu'il serait plus juste de nommer les hommes tourmentés. Et les figures, je vais citer quatre figures majeures de ces hommes tourmentés, ce sont Tony Soprano, Jimmy McNulty, Don Draper ou Walter White, qui sortent donc de séries célèbres, qui sont Les Sopranos, qui datent de, je vais donner les dates tout de même, 1999 pour le début de la série, The Wire, dont le début se date en 2002, donc qui met en, où le personnage central est en effet ce Jimmy McNulty, Mad Men, qui commence en 2007, avec le personnage qui s'appelle Don Draper, et Breaking Bad, qui commence en 2008, avec ce personnage de Walter White. Disons un mot sur chacun. Prenons Don Draper. Le héros de Mad Men est au départ l'incarnation de la réussite du self-made man américain, bien sous tout rapport. Mais toute la série... La série entière consiste dans une certaine manière de décorner son image à mesure que la série avance et de faire que la vérité se fasse jour sur ses infidélités, sur ses mensonges et sur son usurpation d'identité puisqu'il ne s'appelle pas Don Draper. Dans The Wire, McNulty est un détective de la police de Baltimore, un flic tout à fait talentueux. Mais McNulty passe son temps avec une certaine arrogance à ignorer la chaîne de commandement et il encourt régulièrement la colère de ses supérieurs. En fait, c'est un homme très mal en point, avec des problèmes d'alcoolisme. Ses relations avec les femmes sont plus qu'instables et il est séparé de sa femme légitime dont il n'assure même plus la pension alimentaire. Walter White, dans Breaking Bad, est un chimiste de grand talent, qui est professeur de chimie dans un lycée public d'Albuquerque, mais pour subvenir aux besoins de sa famille, il est obligé de prendre un deuxième emploi, vous vous souvenez sans doute pour ceux qui l'ont vu, qui est de travailler dans une station de lavage, une station de lavage automobile. Et puis... Il apprend à un moment qu'il est atteint d'un cancer du poumon, et un cancer très avancé, et du coup, il décide de produire de la méthamphétamine avec l'un de ses anciens élèves pour assurer un avenir financier. Et du coup, toute l'histoire de la série, c'est qu'il va se perdre, finalement, au jeu de l'argent et du pouvoir. Maintenant, le plus parlant, dont j'ai déjà eu l'occasion de dire un mot, il me semble ici, c'est évidemment Tony Soprano, le gangster, un chef mafieux italien qui habite dans un petit pavillon du New Jersey et dont on découvre dès le premier épisode qu'il souffre de crises de panique et qu'il va voir en secret une analyste. La série suit ses problèmes. D'abord, il y a des problèmes de famille, conflit avec sa femme Carmela, avec ses enfants Mido et Anthony Jr., avec sa mère terrifiante Livia et son oncle Junior. Et on suit au travers, avec toutes ces histoires-là, sa carrière criminelle sur plusieurs années. Finalement, pour essayer simplement d'épingler ces descriptions rapides de personnages, ce que ces séries racontent, c'est le déclin des héros. Autant dire que les les héros de ces séries sont plutôt dépeints comme des anti-héros. Entre le successful gourou de publicité qui se révèle un homme torturé, le brillant détective prêt à se livrer à des illégalités assez moches, le savant qui se lance dans le commerce de la drogue, ou le chef de la mafia angoissé et inhibé qui n'est même pas respecté comme père par ses enfants, ces figures classiques, quasi-mythologiques du héros et du héros américain se présentent tous comme des symboles détraqués, fissurés. Au début des années 2000, Jacques-Alain Miller pouvait déclarer que l'ordre symbolique est mangé par les mythes. Dans ces séries, je dirais qu'on a la version où ce sont carrément les mythes qui sont mangés par les mythes. Dans ces séries, toutes ces figures de héros américains viennent montrer et démontrer une vacillation de la puissance du S1, que la place du maître est un semblant, et un semblant tremblant comme de la jelly. On a là, je dirais, les conditions logiques de la venue des femmes sur le devant de la scène, le socle donc de ce qu'on a appelé la féminisation du monde. C'est vrai que j'avais dans le livre, j'ai négligé de parler au fond de cette chute, cette descente au fond de la figure masculine dans les séries pour un peu me précipiter sur ce qui était mon temps. En revanche, qui sont l'apparition des femmes. Les femmes vont prendre la place des hommes tourmentés. Mais il ne s'agit évidemment pas d'une simple substitution, d'un remplacement, disons, terme à terme, ou personne par personne, d'une redistribution des mêmes rôles. Parce que non seulement les femmes, comme sujet, savent évidemment manier le semblant aussi bien que les hommes, mais en vérité, elles le savent encore mieux qu'eux. Il y a une raison à ce mieux. La raison de ce mieux, c'est tout simplement que, dans l'exercice du pouvoir, les hommes sont fondamentalement sous le coup d'une menace. Et tout ça vient de ce qu'ils ont, eux, quelque chose à perdre. Ce quelque chose, c'est ce qu'on a appelé le phallus. Le phallus, c'est le symbole et l'instrument de la puissance, et le problème est que dès qu'il est question de se servir de cet instrument, de manifester la puissance, ça ne peut se faire pour un homme qu'au prix donc d'être menacé qu'il lui fasse défaut, ou carrément de le perdre, autant dire de révéler que le phallus, c'est du pipeau, une baudruche, que ce n'est qu'un semblant. Or, les hommes ont un mal fou à jouer du pipeau. C'est un instrument, c'est un peu un instrument comme les montres molles de Dali, finalement. Et contrairement au conte de Grimm du joueur de flûte de Hamelin, qui entraîne tous les enfants de la ville et va les noyer, les hommes sont des piteux joueurs de flûte. La chanson du phallus n'est pas franchement une chanson marrante et entraînante. Et je ne cesse du coup de m'étonner qu'on accuse les psychanalystes d'être les chantres d'un phallicisme triomphant, parce que quand la psychanalyse parle de phallus, quand Lacan fait entendre la chanson du phallus, la chansonnette ne fait raconter que ce n'est qu'un pauvre semblant, un machin encombrant, une chose fragile et constamment menacée. Le phallus ne se dresse que sur le fond de son propre manque. Il n'y a pas de quoi se vanter. C'est en vérité là où les femmes manifestent leur véritable puissance. C'est en effet qu'elles savent bien mieux que les hommes manier les semblants. Et il y a là aussi une raison à cela, une raison très forte. Cette raison, c'est dans ce que dit Jacques-Alain Miller un jour, que je la trouve, sous la formule qui me paraît la plus percutante, à savoir que contrairement à cet idiot d'homme qui croit l'avoir et qui croit que jouir de son bout, c'est jouir jusqu'au bout, avec la femme, on a affaire à un sujet qui n'a rien. C'est-à-dire, du coup, ajoute tout de suite Jacques-Alain Miller, un sujet qui n'a rien à perdre. C'est comme ça que Jacques-Alain Miller définit ce qu'il nomme une vraie femme. Une vraie femme, c'est le sujet quand il n'a rien. Et précisément, du coup, rien à perdre. Ça, c'est vraiment le talent de Jacques-Alain Miller, je reconnais, de pouvoir tout ramener à un trait élémentaire fulgurant, parce que je me dis que d'une certaine façon, celle qui nomme ainsi une vraie femme, c'est d'une certaine manière ce que j'ai essayé, tant bien que mal, pour mon compte, d'appeler une déglingueuse. La vraie déglingueuse, c'est la femme qui n'a rien à perdre. Parce qu'elle, elle n'est pas rivée, elle n'est pas bornée au phallus. Parce qu'elle se joue des limites. Parce qu'elle est, comme dit Lacan, pas toute dans la fonction phallique. Elle a du coup une sorte de savoir-faire avec les semblants. De n'être pas toute, c'est ce qui fait des femmes des athlètes du semblant. Elles savent en jongler. Et là encore, bien loin d'un dénigrement, on mesure chez Lacan quel incroyable avantage, voire quelle puissance, les femmes peuvent tirer d'être pas toutes. D'ailleurs, plutôt que des athlètes, il vaudrait mieux les regarder comme des artistes. Parce que ces sujets qui n'ont rien feraient quelque chose de ce n'avoir pas. Du coup, je pense non seulement qu'il est grand temps de donner aux femmes artistes toute leur place, mais si la femme, c'est celle qui n'a pas et qui fait quelque chose de ce n'avoir pas, s'il s'agit de faire quelque chose avec rien, je pense que ça ouvre des horizons sans limite à la créativité. Il y a quelques années, il y avait eu une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait « Masculin-féminin » et qui cherchait à cerner un art lié au sexe. Mais faire quelque chose avec son n'avoir pas, ça me semble une clé essentielle de la différence des sexes en art. Ça promet qu'il y ait de plus en plus d'artistes femmes et qu'elles prennent une place absolument essentielle dans le domaine. Et j'ajouterai aussi, ça promet aussi des bons moments de rigolade. En fait, je me suis dit ça en pensant à la célèbre photographie de Louise Bourgeois par Robert Mapplethorpe en 1982, où Louise Bourgeois, vêtue d'un manteau de fourrure à longs poils noirs, porte sous le bras un énorme phallus de plâtre et de latex en rigolant. Ce phallus qu'elle porte sous le bras comme une baguette de pain, elle l'a fabriqué en 1966. Et en plus de ce qui fait partie de l'œuvre, de pouvoir l'accrocher comme de le pendre comme un saucisson, elle a appelé ça fillette. Rien que ça. Le gros, énorme phallus qui s'appelle fillette. Cette photographie de Mapplethorpe, c'est l'image d'une femme qui a pris le pouvoir. Mais pas dans l'image d'une femme de pouvoir, c'est une femme qui rit. Elle s'est saisie du symbole de la force créatrice, sexuelle, mais on voit tout de suite qu'elle n'est pas dupe du symbole. En glissant sa fillette négligemment sous le bras, elle montre aussi une fragilité propre aux attributs sexuels mâles que Louise Bourgeois a considéré, dit-elle, comme, je la cite, « très délicat », dit-elle. Elle disait, je la cite encore, « le phallus est l'objet de mon attention attendrie ». Il y va de vulnérabilité et de protection. Quelle chienne tout de même, celle-là. Avec une telle attention, les garçons ont vraiment intérêt à faire gaffe. Et aussi les pères. Parce que je vous rappelle que si Louise Bourgeois confectionne son phallus en caoutchouc en 66, peu d'années plus tard, donc 8 ans plus tard, en 74, elle réalise une célèbre installation qui se nomme « La destruction du père ». Alors, bien sûr, le portrait de cette femme à poils, poils au pluriel, je fais allusion au manteau qu'elle a mis qu'on voit dans la photographie, le portrait de cette femme pourrait être, à certains égards, le portrait d'une hystérique. Maintenant, il est vrai aussi que je verrais bien en Louise Bourgeois, qui se joue de tout, une figure initiatrice de déglingueuse de première force. Maintenant, toutes les femmes ne sont pas des déglingueuses. Je veux dire qu'il y a des manières très diverses de manier les semblants, de traiter le rien. C'est une activité à laquelle les femmes s'adonnent de jouer sur toutes les gammes du semblant, jusqu'à parfois s'y perdre, il est vrai. Si la position de pouvoir est un semblant, les femmes peuvent parfaitement s'en débrouiller. Du coup, j'ai dit dans la présentation que j'ai donnée ici, que si les femmes étaient un objet caché, au point que dans les enquêtes, il fallait toujours chercher la femme. Il est de fait que non seulement les femmes ne sont plus tellement à chercher, qu'elles sont, le moins qu'on puisse dire, présentes, visibles partout, mais il se trouve maintenant que ce sont elles qui enquêtent. Et j'ai été frappé, du coup, dans l'idée qu'au lieu de rechercher, de faire un tour de toutes les séries, de tous les personnages, enfin de tous, certainement pas de tous, mais de regarder dans les séries les personnages de femmes, il y avait un fil qu'on pouvait prendre, qui était le film des séries où on a des femmes policières. Et que, du coup, en y repensant simplement, j'ai même pas été chercher très loin, en y repensant, je me suis aperçu qu'il y en avait une série considérable. Donc j'ai fait moi-même une rapide enquête et pour chercher les femmes et j'ai établi rapidement de tête donc une liste, la série des séries policières où ce sont les femmes qui enquêtent. Donc je ne vais pas faire la liste complète de ça, mais je vais vous en citer un certain nombre et essayer de poser quelques questions au passage. C'est évidemment intéressant de penser qu'il y a une sorte de pente à faire des femmes, des inspectrices, des femmes policières, parce que occuper une fonction dans la police suppose un rapport à la loi et à l'ordre, et ce cadre du law and order fait d'autant mieux surgir le rapport qu'on peut dire légèrement décalé que ces femmes policières peuvent manifester à l'endroit du signifiant maître. Alors, dans la chronologie, là, pour le coup, c'est vraiment chronologique, je citerai en premier lieu une série assez ancienne, extrêmement intéressante, pas très célèbre, je ne sais pas, mais je suppose qu'il y a certains parmi nous qui sont des savants en matière de séries qui ont dû la voir, qui s'appelle Prime Suspect. En français, suspect numéro 1, avec une actrice formidable qui s'appelle Helen Mirren. La série commence en 1991, donc ça fait un petit moment. Et elle va se poursuivre jusqu'en 2006. Il se trouve que cette série télévisée britannique, aussi, c'est notable, a été créée par une femme, qui s'appelle Linda Laplante. C'est ce que j'appellerais une série de transitions qui met en jeu la féminisation dans la police, qui est vraiment un domaine, par définition, un domaine d'hommes. Ici, il y a une sorte de substitution simple d'une femme à un homme dans la fonction. Quand je dis que la substitution est simple, c'est pour faire valoir que dans les faits, ce n'est évidemment pas simple du tout. Parce qu'alors que l'héroïne est peu prise au sérieux par ses collègues masculins, c'est tout à fait notable quand son arrivée dans ses fonctions d'inspectrice, elle s'appelle l'inspecteur Jane Tennyson et elle profite à un moment du décès accidentel d'un de ses flics pour persuader son supérieur hiérarchique de lui confier la suite d'une enquête sur le meurtre d'une jeune prostituée. Et c'est comme ça que débute une affaire qui va pousser l'inspecteur Jane Tennyson à affronter non seulement le meurtrier, mais également les railleries et les reproches de l'équipe d'hommes qu'elle dirige. Il faut à cela peut-être aussi ajouter un facteur d'âge. J'ai vérifié que Helen Mirren, qui joue le rôle donc dans la série en 91, à partir de 91, joue le rôle alors qu'elle a elle-même 50 ans, donc au début de la série, et qui met en effet en scène des enquêtes de l'inspecteur principal Jane Tennyson, qui dirige donc ce service de police et qui doit donc se battre au quotidien pour s'imposer et pour se faire respecter. C'est à cet égard assez simplement une série féministe, très judicieusement féministe. Une femme se trouve investie des insignes du pouvoir et l'exerce dans un milieu essentiellement masculin, il faut bien dire, assez misogyne. Voilà une femme qui va tout de même plutôt s'identifier avec le symbole du pouvoir. Je veux dire que ce n'est pas que l'inspecteur Tennyson n'est pas une déglingueuse. C'est une femme qui sait parfaitement manier le signifiant maître. Pas étonnant que, outre le talent exceptionnel de l'actrice Helen Mirren, Stephen Frears ait été en 2006. C'est elle que Stephen Frears donc a été cherché pour jouer le rôle de la reine d'Angleterre dans son film formidable qui s'appelle The Queen. Les déglingueuses arrivent un peu après. Donc, je voudrais faire donc un petit tour rapide des séries policières ou des séries d'ailleurs pas forcément policières dans lesquelles des femmes sont impliquées au premier plan. Après avoir parlé de The Queen, je peux citer en premier lieu, alors une série qui n'est pas une série policière, qui s'appelle Borgen, une série danoise qui a été diffusée à partir de 2010. C'est une série politique qui met en scène une femme élue Premier ministre. On a pu voir dans cette fiction qu'il y avait une sorte d'anticipation parce qu'une femme, Helle Thorning-Schmidt, a été première ministre du Danemark de 2011 à 2015. Donc elle est élue l'année même, un an après le début de la série. En fait, quand on lit un peu les articles qui ont été publiés, on dit que la série n'a pas vraiment influencé le vote et que cette femme était déjà favorite avant la diffusion de la série. Il faut par ailleurs noter, et cette série, donc Borgen en fait partie et invite à réfléchir à propos de ça, qu'il y a une sorte d'axe scandinave assez fort dans les séries qui mettent des femmes en scène. On a donné même un nom à un certain genre policier qu'on appelle le Nordique noir. Si on parle de Nordique noir, ce n'est pas simplement d'ailleurs dans les séries, mais nous savons que la littérature policière nordique a pris en effet à cet égard une très grande place. Et je ne peux pas ne pas parler à un moment, citer Millennium, cette trilogie de l'écrivain suédois Stieg Larsson, qui est parue en 2005, une série de livres dont ont été tirés deux films, le thriller suédois-danois réalisé par Nils Arden Hoplöf, sorti en 2009, et puis il y a eu le film de David Fincher en 2011. Il est clair, pour ceux qui ont vu ces films, à mes yeux en tous les cas, il est tout à fait clair que le premier film original est très supérieur à l'adaptation américaine, et spécialement sur un point qui est ce qui concerne le rôle d'un des personnages qui s'appelle Lisbeth Salander, qui est une jeune hacker prodige et qui va, dans l'histoire, aider le journaliste Michael Blomqvist dans une enquête aux ramifications criminelles et politiques qui sont des révélations extrêmement noires sur l'histoire de la Suède. C'est là encore un film qui n'est pas... je ne sais pas ce que l'agence de tourisme suédois a pensé de ce film. Ça ne donnait pas très envie sur la Suède. Il se trouve que dans la série originale, enfin dans le film, pardon, original, c'est pas une série, le rôle est joué par cette actrice qui s'appelle Noomi Rapace, une jeune actrice suédoise tout à fait étonnante, qui donc joue le rôle de Lisbeth Salander, qui va être révélée dans ce rôle de jeune femme rebelle, grande fumeuse, tatouée, habillée en style gothique, avec plein de piercings. D'elle, on peut dire, je crois, il me semble assez évident qu'elle fait partie, elle est à mettre au sommet de la série des déglingueuses, ce qui s'accompagne comme il se doit du fait qu'elle est elle-même super déglinguée. Elle est présentée dans l'histoire et dans le film tout autant comme asociale, ayant un lourd passé psychiatrique, policier et judiciaire. Elle est mise sous tutelle, étant considérée comme une majeure, la formule c'est majeure incapable. Elle est qualifiée, diagnostiquée pour le coup peut-être autiste, représentant même un syndrome d'Asperger. elle a eu une enfance traumatique qu'on retrace, que le roman retrace et que le film évoque. De là, de tout ça, elle se retrouve, et on comprend, qu'elle est entrée en guerre contre les hommes qui maltraitent les femmes, et elle ne manque pas, dans l'histoire, de les punir, d'ailleurs assez salement, lorsque cela lui est possible. Quant à sa sexualité, elle est jugée, disons, assez floue. On ne sait pas très bien si elle est narcisse ou jonquille, comme on dit. C'est une fille assez déchaînée. C'est aussi une manière, un des traits de la déglingueuse. Et assez déchaînée au sens où Lisbeth Salander est un peu un prototype de la femme sans limite. C'est-à-dire, autant pour évoquer ça, cet aspect-là, qu'il y a du côté homme une limite. Du côté féminin, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de limite, c'est qu'on ne sait pas trop où elle est, cette limite. On ne peut pas la déduire d'une exception. D'ailleurs, on devrait dire de chaque femme qu'elle est elle-même, à certains égards, une exception. Lisbeth Salander, et surtout quand c'est sous les traits de Naomi Rapace, elle semble, elle, sans limite. Elle n'est sujette à aucun ordre social et se montre à tous égards immaîtrisable, ce que je disais être véritablement déchaîné. Alors, comme c'est un personnage de fiction, on pourrait faire des hypothèses cliniques et un certain nombre d'éléments de l'histoire pourraient donner à penser que Lisbeth Salander est une figure psychotique. Mais en même temps, le diagnostic qui me semble le plus juste en ce qui la concerne, c'est qu'elle est une femme. Il n'y a pas chez elle de côté... La psychose ne me semble pas... Enfin, avérée, bien entendu, qu'elle n'est pas, puisque c'est vraiment un personnage de fiction. Mais il n'y a pas ce côté de l'envahissement de jouissance qu'on peut mettre en évidence dans la psychose. On pourrait évidemment suggérer... D'une autre façon, on pourrait suggérer l'hystérie, mais là encore, je trouve que ça ne marche pas très bien. L'hystérique ne consent pas à son patou. C'est pourquoi elle en appelle au maître. L'hystérique n'est pas absolument immaîtrisable. Contrairement à Lisbeth Salander, dont le seul diagnostic donc, qui me semble coller, c'est, je le disais, non pas seulement une femme, mais une vraie femme. Celle qui n'a rien à perdre. C'est la déglingueuse en majesté, si je puis dire. Dans la série des séries nordiques noires, il y a une série qu'on ne peut pas éviter, et qu'il ne faut pas éviter, qui s'appelle The Killing. Une série danoise diffusée à partir de 2007. C'est une série excellente et elle va donner lieu à une adaptation américaine en 2011, qui est d'ailleurs, elle aussi, tout à fait formidable. Le personnage principal est une femme qui s'appelle Sarah Lund. Elle est commissaire adjointe à la brigade criminelle de Copenhague. Quand l'histoire commence, elle se rend au travail, le premier épisode de la série, elle se rend au travail pour son dernier jour. C'est son dernier jour de travail. Elle a en effet décidé de changer de vie et de suivre avec son fils, son fiancé, qui va s'installer à Stockholm, donc en Suède. Mais quand elle fait ses cartons, donc dans cette journée, une affaire va la retenir. Une jeune fille de 19 ans, qui s'appelle Nana Birk-Larsen, est retrouvée morte. Elle aurait été violée et assassinée. Et cette affaire va la retenir ce jour-là, et en fait, elle va la retenir complètement, avec le type donc, qui devait être son remplaçant. Sarah Lund se lance à la recherche du meurtrier, et l'affaire se complique de jour en jour par des implications politiques tout à fait considérables, lorsque le principal candidat à la mairie de Copenhague se retrouve donc mêlé à cette histoire. Toute l'histoire tient au fait que Sarah Lund ne part pas, qu'elle ne suit pas son homme, qu'elle ne suit d'ailleurs pas non plus son chef, qu'elle ne suit personne, qu'elle se consacre entièrement à l'enquête. Elle ne suit rien ni personne et elle sacrifie y compris son rôle de mère. Sarah est un personnage étrange, c'est une femme étrange. C'est justement une femme dont on peut se demander ce qui fait sa féminité. Parce que non seulement elle quitte tout, elle quitte son amant, voire elle laisse tomber son fils, mais elle quitte y compris les semblants féminins. Certaines femmes peuvent réduire la féminité à ces artifices susceptibles d'accrocher le désir de l'autre. Une femme peut se mettre en position de n'être que la cause du désir pour un homme, pour son partenaire à l'occasion, n'être que l'objet du fantasme de l'autre. Ça rend une femme quasi inaccessible. Être femme dans le registre du semblant, ça suppose de savoir y faire avec les artifices, de jouer avec les voiles. S'agissant de Sarah Lunt, il y a justement un trait vestimentaire assez frappant. Je crois que je l'ai déjà mentionné. J'ai dit un mot à propos de son pull. Elle a un pull d'un modèle nordique dont elle ne change jamais. Tout le long de la série, il y a beaucoup d'épisodes, elle ne change pas de pull. On ne peut pas dire qu'elle se mette en frais de toilette, Sarah Lunt. Ce qui est très drôle, c'est finalement, j'ai voulu regarder ça un petit peu, et j'ai découvert qu'il existait un site, au moins un, sur le pull de Sarah Lunt. On y parle de son premier pull féroïen, donc je suppose que ça vient des îles Féroé, un pull blanc et noir, où, parce qu'elle en change tout de même, elle n'est pas du tout... Elle prend soin d'elle. Elle change de pull, mais pas le modèle. Et en tous les cas, le pull blanc et noir, c'est celui qu'on lui voit le plus. Et puis, il y a à la fin un dernier pull rouge, du même style. Et on propose donc sur ce site, j'étais assez frappé, on propose aux femmes de leur expliquer comment faire pour s'habiller comme Sarah Lunt à la mode danoise. Je cite ce que j'ai trouvé sur le site. Les fans de The Killing, donc de la série, tueraient pour avoir le pull de Sarah Lunt. Mais heureusement, il n'est pas nécessaire, ajoute-t-on, d'en arriver là. En fait, vous pouvez acheter le pull préféré de la mannequin Helena Christensen sur le site internet des stylistes Gudrun & Gudrun. Il s'agit de la pièce la plus demandée, disent-ils. Même Camille, la duchesse de Cornouailles, en a un, dit-on sur le... Ou alors... Il est possible, on le suggère et on donne les recettes, on peut le tricoter, ce pull. Je ne suis pas sûr qu'avec son pull féroïen, Sarah Lunt fasse rêver un homme. En un sens, Sarah Lunt est une femme sans voile. Elle affiche avec son pull unique son patou qui lui sert aussi bien de patouche. Son gros pull blanc et noir est un semblant élémentaire et ultime. Il y a chez elle un côté Diane. D'un côté, au moins deux aspects de la Diane antique, la déesse qui ne se laisse ni voir ni avoir, et de l'autre aussi, comme inspectrice, il y a la déesse du monde souterrain qui plonge dans les bas-fonds noirs et secrets de la ville et qui déglingue tout, y compris les puissances politiques. C'est vraiment une femme qui n'a rien à perdre et qui n'a peur de rien. Autre série emblématique du polar nordique, il faut dire un mot de The Bridge. Alors il y a trois noms. Il y a Brown, enfin je prononce sans doute très mal, et The Bridge en anglais. Une série suédo-danoise qui est diffusée depuis elle 2011. Il y a donc eu des adaptations, y compris d'ailleurs en France, sous le titre Le Tunnel. Voilà une série. Je vais pas aller loin là encore dans le commentaire de la chose, mais c'est une série qui soulève d'emblée la question des limites. Et cette question est abordée donc dès le début. Vous connaissez sans doute le bizarre argument de départ de la série donc qui s'appelle Brown ou The Bridge. À la frontière entre la Suède et le Danemark, au bon milieu d'un pont, est retrouvé le corps d'une femme. Vraisemblablement assassinée. Les polices suédoises... Alors, elle est retrouvée exactement sur la ligne de frontière. Donc, les deux polices suédoises et danoises sont dépêchées sur les lieux, mais elles vont devoir s'occuper ensemble de ce meurtre. Mais l'affaire prend une tournure particulièrement glauque et compliquée lorsque les enquêteurs découvrent qu'il ne s'agit pas d'un seul, mais de deux cadavres coupés en deux à la taille et qui ont été assemblés pour donner l'illusion qu'il n'y en a qu'un. Il va y avoir donc aussi deux enquêteurs, la collaboration entre la police danoise, représentée par un homme, et suédoise, représentée par une femme qui s'appelle Saga Noren. Saga est une femme en lambeaux. Quand elle se présente pour la première fois, Saga n'a presque pas de vie personnelle. L'idée de base du personnage de Saga Noren, c'est qu'elle est une femme dépourvue de sens social. Elle est décrite comme ça. Elle est définie par son franc-parler. Elle dit presque toujours la vérité, même si ça risque de blesser. Elle est souvent considérée comme insensible ou grossière, voire grossière, envers les personnes qui l'entourent. Elle aborde tout directement et logiquement. Elle aborde tout directement et logiquement et oublie souvent que son attitude, donc, blesse parfois, alors que son incapacité à compatir avec les gens qui l'entourent la rend peu inapte à interroger les proches des victimes, spécialement ceux qui sont récemment endeuillés. Elle n'a absolument aucun scrupule sur rien. Elle essaye parfois de changer quand on lui explique que la personne n'est pas malveillante et c'est quelqu'un qui sourit peu, voire jamais, et qui marche avec une démarche très raide que l'actrice donc s'est inventée. Elle n'aime pas le contact physique et ne supporte manifestement pas que quelqu'un lui montre son affection et tout simplement la touche, même de façon accidentelle. Qu'on tente de lui prendre le bras ou de l'embrasser, ça la met dans tous ses états. Quand je dis que la série soulève des questions sur les limites, il s'agit donc pas seulement des frontières et des ponts, la frontière du corps est tout autant en jeu dans cette sorte de phobie du toucher que manifeste l'héroïne. Comme dans le rapport ou l'absence de rapport aux autres, l'auteur a dit qu'il n'avait pas l'intention, l'auteur qui a interrogé dans une interview, il dit qu'il n'avait pas du tout l'intention de faire de ce personnage une autiste, mais finalement, c'est comme ça que l'actrice elle-même en a jugé. Elle se rappelle d'ailleurs elle-même la manière dont l'auteur, donc qui s'appelle Hans Rosenfeld, lui a présenté son rôle, a priori un rôle pas très séduisant pour une actrice. Je la cite. Elle dit « Il insistait sur le fait que c'est une policière très bonne dans son métier, mais elle est nulle en matière de compétences sociales. Au début, dit-elle, je redoutais que nous répétions le personnage de Lisbeth Salander de Millennium. Mais j'ai compris que les auteurs avaient d'autres ambitions pour Saga. Il y a eu assez tôt de forts personnages féminins dans les séries nordiques, ce que Saga a amené, de même que Sarah Lund, que je citais, donc la policière de The Killing, ce sont des figures qu'elle qualifie, elle, de figures féminines désagréables. Il se trouve que c'est l'auteur de Brown, donc de The Bridge, qui va créer un peu plus tard, en 2016, une autre série qui s'appelle Marcella. Une série qui se passe, elle, à Londres. Le personnage a pourtant un style, étrangement, dans une série qui se passe à Londres, un style résolument, on reconnaît un style résolument nordique. Elle a une grosse parka, qu'elle ne quitte jamais. Elle a un air ébouriffé, parfois même des pulls qui rappellent ceux de Sarah Lund. Hans Rosenfeld, donc le scénariste, se distingue ces dernières années avec ses personnages féminins tortueux, voire extrêmement torturés. Et dans The Bridge, donc, je disais, l'enquêtrice Saga Noren a traumatisé ses partenaires et les spectateurs par son caractère obsessionnel. Les gens n'en pouvaient plus de ce personnage. Grâce à cet entêtement autiste atteinte du syndrome d'Asperger, ce que l'actrice disait de son personnage, cette flic est devenue mondialement connue. Mais avec la londonienne Marcella, la situation va encore empirer. Cette femme, il se trouve qu'elle est en plus sujette à des blackouts, à des moments d'absence durant lesquels elle peut se montrer tout à fait violente, et par exemple même à l'égard de son mari, qui va la quitter. Marcella souffre de perte de mémoire, et quand un personnage à un moment est porté disparu, une femme, elle retrouve l'endroit où se trouve son corps à l'aide de flashbacks, et alors elle craint elle-même de l'avoir tuée lors d'une de ses absences. Je ne sais pas si c'est une série que vous connaissez, c'est une série formidable, Marcella. Autre série qu'on peut aligner, qui elle n'est pas ne fait pas partie des Nordiques noirs, c'est une série qui s'appelle The Fall. La série suit une enquête du service de police d'Irlande du Nord sur une série de meurtres qui se sont produits manifestement de la part d'un tueur en série. Et après un mois d'investigation sans résultat, la police irlandaise fait appel au superintendant Stella Gibson de la police londonienne pour réexaminer le dossier. Le rôle de Stella Gibson est joué par Gillian Anderson. Je pense que vous voyez qui est Gillian Anderson. C'est cette actrice qui s'appelle Dana Scully, qui jouait le rôle de Dana Scully dans la série X-Files, il y a pas mal d'années de ça. Et sous son commandement, la police locale doit traquer et arrêter donc ce tueur en série qui s'appelle Paul Spector, et qui est d'ailleurs psychologue, et qui s'en prend à des jeunes femmes de Belfast, qui sont toutes brunes, jolies, indépendantes financièrement, et ayant mené de belles carrières. L'une en réchappe, mais ne se souvient de rien. Il y a un jeu, enfin une sorte de jeu de chat et de la souris, qui s'instaure entre la policière et le tueur, c'est plus qu'un jeu de chat et de la souris d'ailleurs, il y a une sorte de rencontre profonde d'intérêt que le personnage de la femme flic éprouve vis-à-vis de ce tueur terrifiant. Et Stella donc, Gibson est appelée comme experte donc, à Belfast pour résoudre la série de ces meurtres de jeunes filles. Et elle impressionne absolument tout le monde par sa volonté et par son autorité. Le personnage est décrit comme froid, autoritaire, et la femme comme une femme séductrice, qui en plus, je crois, peut-être dès le deuxième épisode, mais peut-être même dans le premier, elle n'hésite pas à faire venir un des hommes de sa brigade dans sa chambre pour passer une nuit, quoi. Série extrêmement, extrêmement intéressante. Une autre série anglaise, là encore, qu'on peut mentionner, qui s'appelle Happy Valley, qui fait partie de c'est un certain nombre de séries assez formidables, de séries anglaises, qui, là encore, ne donnent jamais envie d'aller mettre les pieds dans les villages anglais en question, qui sont terrifiants, véritablement. Et là, ça se passe dans les vallées du Yorkshire. Et il y a le personnage principal, s'appelle Catherine Carewood, une femme d'une cinquantaine d'années, divorcée, avec des enfants, et qui exerce la fonction de sergent de police. Elle tente, en fait, de se remettre du suicide de sa fille, qui est survenu 8 ans plus tôt. Alors qu'elle semble finalement reprendre le dessus, elle apprend que l'homme qu'elle juge responsable de ce suicide sort de prison en ayant purgé une peine pour d'autres faits. Elle revient rapidement, obsédée par l'idée de se confronter à lui, ignorant qu'il est impliqué dans une organisation criminelle qui vise à enlever une jeune femme afin d'obtenir une rançon. La série est tout à fait passionnante. Mais là aussi, c'est un personnage, le personnage du sergent de police est un personnage extraordinairement tourmenté. Je citerai, avant de citer une dernière série, une autre série que je viens de voir, alors qui appartient à elle, c'est une série du pur nordique noir, une série finlandaise qui s'appelle Deadwind, qui suit une femme détective de la police finlandaise, extraordinairement désagréable tout le temps, qui s'appelle Sofia Karpi, le personnage. Elle est veuve, elle aussi, elle a une trentaine d'années, et elle est mère de 2 enfants. Et elle retourne à la police. Elle revient après la mort de son mari. Elle revient à la police de Helsinki et son premier cas est une enquête sur le meurtre d'une jeune femme, Anna Bergal, consultante en affaires sociales. Et la série, bon, pas fascinante, mais assez intéressante. Et je voudrais donc, pour finir dans ce panorama des séries, évoquer celle dont que j'ai déjà mentionnée, qui s'appelle donc Jessica Jones. Jessica Jones, c'est une série dont je vais pas en dire beaucoup puisque j'en parle, je crois, assez dans le livre. C'est une série qui est tirée d'une bande dessinée. C'est une héroïne de BD, une super-héros, et qui est définie comme elle souffre d'un stress post-traumatique à la suite d'une confrontation avec un personnage qui a été jugé à l'occasion comme le personnage le plus noir de toutes les histoires de la BD, qui s'appelle Kilgrave, et qui a donc, Jessica Jones, a remis au placard ses envies d'être une super-héroïne. Elle a remis au placard ses envies d'être une super-héroïne, et elle décide pour le coup d'ouvrir une agence de détective située dans un quartier assez paumé de East Village à New York. Et malgré donc le soutien de sa sœur adoptive qui s'appelle Trish Walker, elle ne parvient pas totalement à tourner la page. Et lors d'une nouvelle enquête, les anciens démons qui l'avaient occupée réapparaissent, resurgissent. Et elle se retrouve confrontée donc à ce personnage monstrueux de Kilgrave, qui est une sorte d'incarnation, j'en ai dit un mot, je crois, l'incarnation du pouvoir absolu d'un homme, qui est le pouvoir de la parole, qui est même pas le pouvoir que Fritz Lang pouvait donner à un personnage d'être un hypnotiseur général, mais c'est un personnage qui, simplement en parlant, opère simplement le pouvoir de maîtrise absolue que le seul fait de parler peut engendrer, et il tue, il arrive à faire se tuer des gens simplement en leur disant de se tuer, et les gens obéissent, il y a une soumission complète, et donc Jessica Jones est confrontée à ce personnage-là, de celui qui dispose du pouvoir absolu de la parole, qui la met à l'occasion dans l'obligation d'enfermer, quand elle veut le combattre, elle enferme Kilgrave dans une pièce insonorisée pour ne pas entendre sa voix, pour ne pas qu'il puisse lui parler. Et elle va le torturer, d'ailleurs, dans cette pièce. Mais j'en dis, je crois, un petit peu plus dans le livre, faisant de Jessica Jones, évidemment, une sorte de modèle de la déglingueuse, absolument déglinguée. J'ai pas redit là le fait qu'elle est alcoolique, donc elle boit, donc elle incarne, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle reprend exactement, à certains égards, tous les traits de ce que le roman noir américain avait pu mettre en avant sur le détective privé, qui boit, qui a un petit bureau paumé dans un quartier malfamé, etc. Elle incarne absolument ça. Mais elle est une super-héros. Et donc, c'est pour elle, non pas une déchéance, mais elle a renoncé à quelque chose, en effet, de son propre pouvoir, mais aussi du pouvoir qui est supposé celui d'un détective privé, avec tout l'aura que peut avoir, que la littérature américaine a donné à ces personnages. C'est un personnage sans aura, Mais avec Sex Appeal, l'actrice est tout à fait séduisante elle-même, et elle a des histoires avec, en particulier avec un autre super-héros. Moi, je suis pas lecteur des BD, j'ai pas suivi les aventures de ces super-héros, mais elle a une relation assez torride avec un tenancier de bar, personnage tout à fait formidable, qui vient lui aussi donc de la BD d'origine de super-héros. Bon, on arrête là sur le programme, si je puis dire. Là, vous avez de quoi faire, si je puis dire, pour aller. Ben, si d'aventure, vous ne les aviez pas vus, je suis sûr que... Tu as vu à peu près toutes les séries dont j'ai parlé. Voilà, on peut peut-être maintenant échanger ensemble sur ça.
Oui, alors j'en ai vu aussi quelques-unes, celles que vous avez énumérées. J'avais un petit commentaire à faire sur votre énumération des séries nordiques. Alors, premièrement, c'est vrai que vous n'énumérez que des séries nordiques et voire anglo-saxonnes. C'est vrai que la série française n'existe pas. On se demande s'il y a des déglingueuses françaises ou pas. Mais par exemple, dans vos héroïnes déglingueuses, vous parliez de Sarah Lount dans The Killing, il y a aussi une évolution du personnage. C'est-à-dire que dans les séries, alors c'est vrai qu'il y a tous ces traits que vous définissez, qui sont les traits tantôt de la vraie femme, de celle qui, pour laquelle il n'y a rien à perdre et puis elle est sans cause, mais elle a un mobile. On pourrait se dire que ce n'est pas une tueuse, mais elle a un mobile, trouver le criminel. Sauf que ces héroïnes évoluent. Et Sarah Lount évolue puisqu'elle va tomber amoureuse. Oui. C'est pas rien.
À quelle version?
Dans la version originale.
Ah oui, mais la version américaine aussi.
Parce que c'est ça aussi la série, c'est que ça permet comme ça, faire travailler la question de la déglingueuse au-delà du trait.
Vous avez tout à fait raison, je me bats la culpe. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait être plus... Il faudrait regarder l'évolution des personnages. Ouais. Mais vous l'avez aussi, au passage, défini ce que j'avais... pas exactement dit, les personnages sans cause.
C'est-à-dire,
elles sont flics, mais elles sont des flics obnubilées par l'enquête qu'elles mènent, mais qui ne sont en rien motivées par... sont pas des défenseurs de la loi et de l'ordre. Sont pas des... Alors que il y a une série qui s'appelle Law and Order, c'est pas elles, mais jamais. C'est-à-dire, elles sont occupées, on se dit... Et on ne peut pas les détacher de l'enquête qu'elles sont en train de mener, qui leur donne sinon une cause, du moins un but, en effet. Ça, c'est vrai qu'elles sont attachées à ces buts-là, comme on ne peut pas les soustraire à ça. Et il faut qu'elles aillent jusqu'au bout.
Et on peut d'autant moins les soustraire que c'est des enquêtes presque infinies, c'est-à-dire avec des ramifications qui ne font que complexifier l'enquête. Donc finalement, il y a aussi l'enquête a changé. Les enquêtes ont changé.
Oui, et qui mettent donc en effet relativement souvent en cause le monde politique.
Il y a toujours le
pouvoir est toujours... Et il est un des traits qui les caractérise, rentre tout à fait dans cette vision de la chose, c'est que rien ne les arrête.
Oui.
C'est-à-dire, elles sont... on ne pourra pas les aucun homme politique ne pourra la faire céder, elle ne recule devant rien, on ne peut pas leur proposer de l'argent, on ne peut rien leur faire qui les fasse reculer et les empêcher d'aller jusqu'au bout, essayer d'aller jusqu'au bout d'enquêtes qui sont en effet souvent extraordinairement longues. Et qui au fur et à mesure que les enquêtes progressent, on a l'impression qu'on découvre d'autant plus de raisons de mener des enquêtes. Donc c'est vrai que c'est tout à fait saisissant.
Oui, les scénaristes leur donnent vraiment tous les éléments pour être défonceuses.
Oui, absolument.
Mais sans horizon.
Absolument sans horizon. Mmh. C'est, le côté sans cause, c'est un trait absolument commun à toutes les, à tous ces personnages féminins. C'est aussi, elles n'ont aucun idéal, aucune idéologie. Elles ne sont, alors la question du coup qui se pose, c'est de savoir, oui. Mais qu'est-ce qui les anime ?
C'est ça, oui.
Ben oui, c'est évidemment...
Qu'est-ce qui les anime ?
Dites-moi. Non, il y a quelque chose qui tient à une sorte de jouissance mm-hmm. chez elles, à l'évidence, même quand il y a des jouissances latérales comme l'alcool pour Jessica Jones, en effet. Mais on se dit qu'on est obligé de faire cette hypothèse-là, au fond, qu'il y a quelque chose... Comme elles ne sont animées par rien de ce qui est supposé animer la volonté d'un flic dans une institution de police des pays démocratiques, etc. C'est pas ça qui les guide. On est obligé de faire l'hypothèse, en effet, qu'il y a quelque chose qui s'appellerait le point d'énigme, c'est celui de cette jouissance-là qui les guide, mais qui est une jouissance de quel ordre, de quelle nature, qui va... Le côté aller jusqu'au bout de... Pardon ? Ah, totalement incorruptible. Non, mais elles sont inaccessibles à toute corruption de toute nature. De toute nature. On ne peut pas les arrêter. Rien. Non. Elles sont immaîtrisables. À tous égards.
C'est pour ça que peut-être que poser la question du but ou de la cause ou du mobile doit s'inverser. C'est-à-dire que ce qui les cause, c'est ce qui les pousse.
Oui.
Sans but final, autre que...
Oui, il y a tout de même ce but. De l'enquête elle-même et son propre, et le propre but. C'est à chaque fois leur propre but.
C'est de ne pas cesser l'enquête. Mais, comme le rappelait Martine Vercel, au fond, une fois qu'ils ont trouvé le coupable du cadavre, en fait, il va se passer autre chose, oui. Sans cesse.
Oui, sans cesse. Oui, c'est pour ça que je disais...
C'est plutôt le tour.
Oui.
Oui, c'est plutôt...
Voilà. Entre, je ne sais plus comment c'était, entre le zil et le...
Voilà.
Entre le but et... Oui, oui.
C'est plutôt le tour, voilà.
Elles font le tour tout le temps.
Elles font le tour tout le temps.
Elles font le tour tout le temps.
C'est... Et quand même, ce qui cause souvent dans ces personnages-là cette pulsion de vie, c'est souvent des rencontres traumatiques, des pulsions, des rencontres douloureuses, des rencontres.
Absolument.
Lisbeth Bender a quand même été maltraitée, humiliée, brûlée. Hein, c'était ça le. Elle est brûlée.
Oui, oui.
Voilà. Y a quand même souvent ça à la racine, quand même.
Il y a souvent ça à la racine. Par ailleurs, j'étais en train de penser, quand vous évoquiez le fait que, ce qu'on peut en effet dire, que l'enquête est le but lui-même, c'est le mouvement même.
C'est le tour de...
Et qu'elle se développe tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose, il n'y a pas un moment où elle dirait « j'ai enfin trouvé ».
Voilà, c'est pas de la catacristie.
Pas du tout. Mais du coup, ce qui me venait en vous entendant, c'est l'idée qu'il y a un moteur qui est celui de la série elle-même. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle trouve une solution à quelque chose, en fait, il y a une nouvelle énigme qui survit, voilà. Et qui relance l'histoire. Donc, il y a un côté totalement illimité. C'est-à-dire, le point d'illimitation est tout à fait présent dans la manière même que les scénaristes ont de concevoir l'histoire. Oui. Ouais. Ça a cet effet-là. Parce qu'il est lié aussi à la entre guillemets, la structure de ces personnages, si je peux dire. Mais il y a aussi cet effet que ça permet de poursuivre les séries jusqu'à ad libitum.
Oui, alors l'addiction présente, l'alcoolisme ou le traitement médicamenteux de Carrie Bateson n'est là que pour freiner un peu le mouvement, mais
oui.
Ne le détourne pas, ne l'arrête pas, ne l'empêche pas. Le ralentit à peine, au fond.
Oui, vous avez raison que j'ai étrangement laissé de côté Carrie Mathison, qui serait la chef de groupe, enfin, si je puis dire. C'est tout de même dans, 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 dans Homeland, c'est évidemment le personnage le plus qui répond au plus près de cette définition là de la déglingueuse. Et en effet, alors là, pour le coup, le traitement médical qu'elle prend n'est pas du tout une manière de tempérer les choses. Enfin, ça n'arrête rien, ça ne... Et au contraire, c'est-à-dire que même l'histoire va se poursuivre et tout ça. Alors, elle est tout le temps, d'ailleurs, à ce propos, en train entre arrêter le traitement, poursuivre le traitement, arrêter le traitement, etc. Mais manifestement, bon, le fait d'avoir... de l'avoir épinglé cliniquement, puisqu'elle est cliniquement
bipolaire.
Le personnage est qualifié de bipolaire dans l'histoire même, c'est quelque chose qui est simplement le bipolaire et donne le mouvement même du personnage tout le temps, ça c'est sûr. Oui.
Je vous propose que nous arrêtions là. Je remercie Gérard Wachsmann pour sa série de conférences.